Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, je reçois avec plaisir le professeur Christian Lauchon. Christian Lauchon, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente d'emblée à nos chers amis auditeurs. Vous êtes chargé de cours à l'Université Paris 2, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, et vous étiez aussi électeur aux universités Ain Shams et Al-Azhar au Caire, et vous étiez aussi détaché auprès des universités de Bagdad et de Téhéran, et vous avez été aussi attaché culturel et de coopération technique à l'ambassade de France, aussi bien à Bagdad qu'à Khartoum et aussi à Damas. Quand nous voyons ce qui advient de Damas maintenant, et vous-même avez une nostalgie du temps où Damas était une ville florissante et aussi le lieu du débat intellectuel et de l'effervescence culturelle.
Nous espérons que ça reviendra.
Alors avec vous, Christian Lauchon, nous parlerons d'une société secrète, d'une confrérie, d'anonymes, d'encyclopédistes, qui se sont fait appeler eux-mêmes les frères de la pureté, et on ajoute aussi les amants ou les amis de la sincérité ou de la fidélité. Et donc avec vous, vous qui les connaissez si bien, ben nous voudrions faire davantage connaissance avec ce groupe, avec cette société savante, qui globalement était entre le début du 9e siècle, à peu près vers 815, date de la mort de Jabir ibn Hayyan, le Geber des Latins, l'alchimiste, jusqu'à la fin du 10e siècle. On les a considérés comme des encyclopédistes d'avant la lettre. Ils ont anticipé, et de loin et dans le temps, les Diderot, les D'Alembert et autres encyclopédistes que nous connaissons et qui ont resté pour la postérité. Alors, qui sont-ils vraiment, Christian Lauchon, et quel était leur champ de production intellectuelle?
Il se trouve que cette encyclopédie, en fait, elle est venue à une époque importante qui est, comme vous le savez, l'occultation du 12e imam. Chez les chiites, bien sûr. Et donc cette disparition a fait que le public intellectuel a essayé à l'époque de se mettre à la place, de remplacer, si c'était possible, tout ce qui pouvait venir du côté ésotérique, du côté occulte, mais aussi, comme vous l'avez dit vous-même, du côté scientifique. Et je dois dire, par exemple, vous avez des chercheurs, notamment le chercheur tunisien Habib Ferri, qui a beaucoup travaillé sur Ikhwad al-Safa, sur donc les frères de la pureté, et qui disait « ce n'est pas tellement une œuvre ismaélienne, mais elle a été adoptée par les Ismaéliens ». Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas seulement que des Ismaéliens, mais il y avait, un petit peu comme vous avez cité l'encyclopédie en France au XVIIIe siècle, il y avait tout un collectif de savants, qui n'étaient pas forcément ismaéliens, qui étaient sunnites, et qu'il y avait certainement des chiites. C'est en fait, vraiment, je crois, dans l'islam, le symbole de l'unité de la connaissance. On connaît sans être forcément, sans appartenir forcément à une catégorie de l'islam. Et c'est pour ça que cette œuvre, elle est représentée par 51, en arabe on dit risala, c'est-à-dire une épître si vous voulez. C'est en fait quelque chose qui est assez extraordinaire et je crois que vous-même, vous avez été frappé par cela. C'est la manière dont ces écrits sont présentés. Ils sont présentés de la façon la plus didactique possible. On peut imaginer un professeur d'université devant ses étudiants. Il va commencer par expliquer le cours qu'il va donner. Il en fait une sorte de résumé. Et donc, on sait de quoi l'on va parler. Et c'est ça qui est fantastique, c'est-à-dire que cette encyclopédie, en fait, est un modèle didactique d'enseignement.
Oui. Alors, je voulais pas vous interrompre pour évoquer simplement que les Ismaéliens ou l'ismaélisme est un courant du chiisme duodécimain. Et on est à ce moment-là sous la dynastie des Abbassides.
Ah, tout à fait. Bien sûr, c'est la dynastie des Abbassides, notamment à Bagdad et puis dans l'Empire Abbasside à l'époque. C'est pour ça que je me permets de dire que, après Abi Faqih, qu'il n'y a pas seulement que des Ismaéliens. Il y a tout ce... Qu'est-ce que vous voulez, Bagdad, c'était une ville de plus de 500 000 habitants. Il faut se rappeler qu'à l'époque...
Intramuros, parce qu'avec l'agglomération, c'était 1 million.
Ah oui, oui, absolument. Donc, 500 000 habitants, dans des conditions quand même médiévales, mais avec tout un environnement universitaire, un environnement de recherche, un environnement... Puisque vous avez fait la comparaison avec l'encyclopédie française du XVIIIe siècle, un environnement de salon. C'est-à-dire, il faut penser par exemple à Hariri et à toutes ces, tout ce rassemblement de savants qui s'entretenaient, je pense à El-Jahez et autres qui étaient de merveilleux conteurs, c'est-à-dire c'était des salons de connaissances. Et donc, cette œuvre se présente, comme nous le disions, sous la forme de 51 épîtres.
Plus une, parce
plus
qu'en
une,
réalité,
vous avez tout à fait raison. Alors, la dernière serait une sorte de résumé général. De résumé général avec une intention, alors, peut-être plus initiatique et ésotérique. Parce que, il faut dire que, contrairement à un enseignement universitaire habituel, les premières épîtres sont dosées. C'est-à-dire que on ne passe aux épîtres suivants que après avoir souscrit à une forme initiatique, non seulement l'enseignement, mais une discipline qui permet de passer. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez parlé finalement de sorte de société secrète, n'est-ce pas, qui permet une initiation progressive pour arriver, et finalement, à la 52e. Mais si vous permettez, je souhaiterais revenir simplement à la forme didactique de chaque épître. Le cours, donc, se donne un peu comme dans un amphithéâtre. Et puis, à la fin, il y a un résumé qui rappelle les principaux points. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, pour l'étudiant moyen, représente quelque chose d'extraordinaire, puisque il connaît la méthode du professeur, enfin de l'enseignant, du rédacteur de l'épître, n'est-ce pas? Et donc, s'il décroche à un certain moment, il y a quand même le rappel du résumé. Et ça, c'est quelque chose de remarquable. Vous l'avez dit. Nous sommes au 9e, 10e, 11e siècle à peu près, puisque c'est quand même sur un certain nombre d'années que ces œuvres ont été collationnées. Et il y a une modernité que l'Occident ne trouvera finalement que beaucoup plus tard, au moment du siècle des Lumières, faut dire.
Christian Lauchon, on aura tout à l'heure le temps de passer en revue le contenu même de ces épîtres, mais pour l'instant, essayons de comprendre pourquoi ont-ils gardé comme ça l'anonymat et ont cultivé le secret. Est-ce pour des raisons politiques? Est-ce pour des raisons didactiques aussi? Est-ce pour susciter la curiosité du public récipiendaire de ces épîtres? Parce qu'après, on verra qu'il va transparaître dans leurs écrits que leur philosophie est plutôt de facture pythagoricienne.
Tout à fait. C'est-à-dire, en fait, c'est quand même l'Empire Abbasside à l'époque, au 9e siècle, est extrêmement ouvert, n'est-ce pas? Il y a des discussions libres, mais jusqu'à un certain point quand même, il y a la puissance des oulémas qui va se développer, et donc...
Les oulémas étant un terme générique pluriel, les savants, les docteurs de la loi.
Tout à fait. Peut-être docteurs de la loi, c'est-à-dire donc, et théologiens peut-être. Et donc là, il y a une sorte de franc-parler à l'intérieur de ces salons et de ces endroits où l'on rédige les épîtres qui fait que il y a peut-être des choses qui ne sont pas dévoilables au tout venant. Et c'est pourquoi il y a cette progression initiatique. Donc je pense que l'on a gardé l'anonymat, un peu comme dans certaines sociétés secrètes, n'est-ce pas, qui font que on cache un peu au grand public ce que le grand public sans la connaissance, n'admettrait pas. Et quand on parle de grand public, on parle aussi de personnes qui ont fait moins d'efforts, mais qui ont le pouvoir et qui pourraient peut-être se dresser.
Oui. On finira au bout de 2 siècles, à moins connaître 5 parmi eux.
C'est vrai.
Oui. L'anecdote veut que c'est Abu Hayyan Tawhidi, oui, qui lui est mort en 1023, qui, dans son ouvrage, qu'on peut traduire par délectation et convivialité, qui est en réalité, ce sont des verbatims ou des comptes rendus de 37 nuits avec un vizir de discussion, et c'est lors de la 17e nuit qu'il y a eu la révélation d'au moins 5 membres de cette confrérie ou de cette société savante des frères de la pureté.
Tout à fait.
Alors, c'est uniquement peut-être pour des raisons pédagogiques et didactiques qu'ils ont cultivé le secret, ou est-ce que aussi pour des raisons politiques, vu eu égard à leur appartenance éventuelle ou putative ou sérieuse à l'ismaélisme?
Mais c'est-à-dire que l'influence pythagoricienne, voyez-vous, et cette influence pythagoricienne, ça fait partie de la connaissance pérenne. C'est-à-dire, elle a traversé les siècles, et elle existe encore aujourd'hui, et elle existera chez nos descendants. Donc, cette influence pythagoricienne, qui est une influence de qualité, une connaissance des vérités universelles, si l'on peut dire. Rappelez-vous que la théorie des frères de la pureté, c'est que l'univers est ce qu'il appelle un insan kabir, un homme grand.
C'est le macrocosme.
Le macrocosme, voilà, le macrocosme. Et donc, vous voyez combien cela peut offenser des tenants d'un rigorisme religieux particulier. Ce n'est pas facile. Et c'est toujours la théorie pythagoricienne, celle qui a été traduite ensuite par les philosophes arabes notamment, et qui est le fait que le microcosme est le macrocosme. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ce sont naturellement des notions qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, parce que ça voudrait dire que peut-être l'homme peut se comparer à Dieu, ce qui serait absolument
hérétique et blasphématoire.
Blasphématoire.
Moment-là.
Mais vous reconnaîtrez peut-être que ce n'était pas l'intention du tout des Ismaéliens et de ceux qui écrivaient ces épîtres, parce que à plusieurs reprises, notamment dans l'appel à la tolérance, c'est constant que ces écrivains citent le Coran. C'est-à-dire, ce qui est merveilleux chez eux, et ça rappelle un peu l'esprit des encyclopédistes du XVIIIe siècle, c'est qu'ils connaissent le Coran de façon extraordinaire. Ce ne sont pas des libres penseurs, ce sont des personnes qui ont beaucoup travaillé sur les versets coraniques, mais en plus, ils ont travaillé sur les autres religions. C'est-à-dire que c'est ça qui amène cet esprit de tolérance. C'est-à-dire, rappelons-nous, nous sommes quand même au 9e, 10e siècle. Vous imaginez cette ouverture d'esprit, c'est-à-dire ces musulmans connaissent d'une façon extraordinaire, par exemple, la composition de l'Église chrétienne et comment elle s'est faite. Ils connaissent ce que nous ne connaissons plus. Et ce que, naturellement, beaucoup de musulmans et même beaucoup de chrétiens ne connaissent plus, qu'est-ce que c'est qu'un monophysite? Qu'est-ce que c'est qu'un diaphysite? Mais c'est incroyable, c'est-à-dire, ils ont une connaissance raffinée, je dirais.
Et différente, le mot secte n'est pas à prendre avec la charge émotionnelle de nos jours, de l'Église chrétienne à l'époque. Certes, les monophysites, les nestoriens, les arianistes, les jacobites, les eutychidiens, les colléridiens, les docètes. Et ça, ils en avaient une connaissance très accrue.
Une connaissance parfaite. Une connaissance, non pas pour contester, mais pour expliquer et pour appeler à la tolérance. C'est ça qui est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce n'est pas de textes agressifs. Ce sont des textes qui disent, après tout, l'homme est un homme, et il faut qu'il se perfectionne, et c'est la volonté de Dieu que l'homme se perfectionne, et naturellement, un certain nombre de versets sont donnés pour cela.
Oui, et c'est là où on commence à parler de l'émergence d'un sujet humain digne de respect et de sa dignité humaine, et aussi de ce qu'on pourrait appeler plus tard de l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique.
Tout à fait, c'est-à-dire il s'appuie beaucoup sur le sens que le Coran donne au khalifa. Le khalifa, c'est le gérant de Dieu sur terre.
Ou le vicaire de Dieu sur terre.
Je dis le gérant parce que je n'ose pas dire qu'il est devenu, il deviendra propriétaire de la terre, n'est-ce pas? Comme beaucoup d'humains s'imaginent qu'ils sont propriétaires de la terre, alors que nous devrions penser que c'est une grâce qui nous est donnée, qui est offerte. Et cela, c'est Ikhwan al-Safa, ces frères de la pureté, avaient une intuition de cela. C'est-à-dire, ils étaient en fait au service de l'homme. Et être au service de l'homme, c'est être au service de Dieu.
Oui, on aura à revenir sur toutes ces notions, et notamment leurs accointances avec la philosophie d'Al-Farabi, l'Al-Farabius des latins, et surtout dans cette optique-là de la conquête du bonheur et la quête du salut, qui peuvent et doivent se faire dès ici-bas, sans nécessairement le secours ni implicite ni explicite de la révélation d'autre chose. Ça devient une affaire proprement humaine. Mais Christian Lauchon, si vous voulez bien, est-ce que vous pouvez nous indiquer, ne serait-ce que à grosses mailles, si je puis dire, les différentes disciplines embrassées par ces 51 plus une épître?
Il y a un certain nombre d'épîtres qui sont consacrées aux sciences mathématiques et logiques. Il y en a qui sont consacrés aux sciences physiques, d'autres aux sciences rationnelles, et même, bien sûr, aux sciences théologiques. C'est-à-dire qu'il y a, si vous voulez, une volonté de lier le connu et l'inconnu, de lier le scientifique et la recherche philosophique. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui nous fait penser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aux encyclopédistes du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, c'est vraiment du rationalisme, mais en même temps, on n'oublie pas la connaissance qu'il faut, la connaissance théologique. Et je rappelais quand même tout à l'heure cette connaissance qui est basée sur les textes, alors au départ, notamment sur le Coran. Et il n'y a aucun doute qu'il y a constamment dans les épîtres des références au Coran, la description notamment des prophètes législateurs, du prophète lui-même avec le voyage nocturne, qui là rappelle naturellement le côté initiatique, n'est-ce pas, qui est utilisé notamment dans les confréries, le mythe de la caverne des sept dormants aussi. C'est-à-dire que finalement, on sent bien que ces rédacteurs s'appuient beaucoup sur le Coran, ce qui veut dire que le musulman moyen, le fidèle, il n'est pas désemparé. On ne le déconnecte pas de sa connaissance de base. C'est ça qui est passionnant.
Pour les sept dormants d'Éphèse, peut-être que nos amis auditeurs ne les connaissent pas. Est-ce que vous pouvez dire deux mots? Qui sont-ils? Comment? Parce que c'est une histoire commune aussi bien à la tradition chrétienne qu'à la tradition islamique.
Absolument. Ouais. Mais c'est ça qui est merveilleux dans le Coran, c'est que vous avez énormément de rappels, notamment de la Bible, tous nos auditeurs connaissent bien, mais aussi même après des actes des apôtres et de ce qui s'est passé, notamment dans la conversion de jeunes païens au christianisme. Sous l'empereur Dèce, et c'est au IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est extrêmement intéressant parce que vous avez un mythe que les chrétiens connaissent, qui est le mythe de Marie-Madeleine, et Marie-Madeleine aurait été enterrée à Éphèse. Et ces jeunes gens sont des jeunes gens qui sont venus au christianisme et donc qui sont poursuivis, et qui vont se réfugier dans une caverne. Et la caverne va se fermer sur eux. Le lendemain, croient-ils, ils descendent dans la ville d'Éphèse, n'est-ce pas, pour acheter du pain, et leurs interlocuteurs, alors là, les commentaires du Coran, vous le savez beaucoup mieux que moi, diffèrent selon le nombre des années. Est-ce que c'est 250 ans, 350 ans, etc. Mais disons que c'est beaucoup plus tard, 2 siècles, 3 siècles plus tard, et on leur dit, mais la monnaie que vous avez, c'est du temps, comme vous l'avez dit, de Dès.
Et l'accoutrement aussi.
Et l'accoutrement aussi. Et ça, je crois que c'est extrêmement intéressant, parce que, pour l'islam, naturellement, c'est le mythe de la résurrection. C'est ça qui est passionnant.
Si nous avons fait ce détour, c'est pour expliquer le mythe dit de la caverne. Il y a une sourate qui est dédiée à cela, la sourate 18 du Coran. C'est pour dire que nos amis, les frères de la pureté, prennent ce sujet et ce support pour le commenter, pour en parler. Nous sommes sur France Culture avec le professeur Christian Lauchon. Je rappelle que vous êtes chargé de cours à l'Université Paris 2 et vous êtes membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, lecteur dans différentes universités et notamment des universités arabes, Ain Shams et Al-Azhar au Caire, pour ne citer que celles-là. Poursuivons avec vous, Christian Lauchon. Les frères de la pureté sont des encyclopédistes. Et on produit des épîtres, 52 au total, sur un intervalle de temps qui couvre le 9e, 10e siècle. Et nous étions en train de passer en revue le contenu, les différentes disciplines embrassées par ces épîtres. Alors, suite à cela, qu'est-ce qu'ils ont produit aussi ?
Tout à l'heure, vous rappeliez qu'il y a 5 auteurs qui sont connus. Mais en fait, il y en a beaucoup. Les autres ne sont pas connus. Mais vous avez remarqué que dans les épîtres, le mot « je », par exemple, comme un professeur pourrait le dire dans son cours, on ne le retrouve qu'aux épîtres 31 et 51. C'est toujours le « nous » collectif. Et ça, je crois...
Ce n'est pas un « nous » de modestie, c'est un « nous » collectif.
Un « nous » collectif. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous. C'est un enseignement par lui-même. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire un collectif d'enseignants qui se mettent ensemble, qui pallient leurs différences, qui au contraire essaient de trouver le mot le plus juste. Tout à l'heure, je parlais de didactique, mais c'est cela, c'est-à-dire ce collectif d'enseignants, c'est quelque chose de merveilleux parce que ça veut dire qu'ils se mettent au service de leurs élèves. Alors, si vous permettez, tout à l'heure nous avons parlé de cet enseignement progressif initiatique. Alors, il faut dire aussi, puisque nos lecteurs pourraient se demander finalement quels étaient les lecteurs. Nous nous interrogeons sur qui étaient les producteurs, qui étaient
les
rédacteurs.
Quels sont les récipiendaires ?
Quels sont les récipiendaires ? C'est pour qui ? Alors, finalement, les épîtres sont faites progressivement, elles sont enseignées progressivement pour des classes d'âge. C'est-à-dire qu'il y a la classe d'âge de 15 à 30 ans et les jeunes gens sont formés selon la loi naturelle. Et puis ensuite, de 30 à 40 ans, c'est encore une sagesse profane. C'est à partir de 40 ans qu'il y a une initiation à la spiritualité. Et connaître le message prophétique.
Après 50 ans.
Après 40 ans et à 50 ans, effectivement, connaître la réalité ésotérique et c'est celle de la 52e épître. C'est extrêmement intéressant parce que, voyez-vous, chez les druzes aujourd'hui, on ne devient ce qu'ils appellent aqil, c'est-à-dire un raisonnant, quelqu'un qui a la connaissance, qu'à 40 ans.
Sage, oui.
N'est-ce pas, le sage. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que, finalement, et on peut s'interroger là-dessus, puisque cette émission leur est consacrée, on peut se demander s'ils ont encore une résonance aujourd'hui.
Christian Lochon, le débat entre historiens, est-ce que c'est pour être admis au sein de la société qu'il y a ces degrés, de 15 à 30 ans, de 30 à 40, de 40 à 50 et au-delà, ou est-ce que c'est le peuple récipiendaire qui doit, selon sa tranche d'âge, accéder à ces degrés de connaissance et de sagesse? Et
c'est dans le texte même que ces données apparaissent. C'est-à-dire qu'en fait, on imagine que jusqu'à 30 ans, on n'a pas suffisamment développé son intellect ou son intérêt pour la terre, pour les hommes, etc. On a été pris par la jeunesse et tout cela. On n'a pas encore de responsabilité très importante. Et donc, à chaque classe d'âge, il y a une responsabilité. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aurait pas de senior. Il y aurait constamment, si vous voulez, l'homme, dans tous les âges de sa vie, il doit apprendre pour être au niveau de développer la connaissance, et que finalement, tout cela, c'est pour que le monde soit à l'image, au projet que Dieu a voulu faire. C'est-à-dire, en fait, arriver à créer un univers qui soit un univers de connaissance et aussi de foi. Et je crois que d'intéresser toutes les classes d'âge, ça veut dire quand même quelque chose d'important pour nous, c'est-à-dire que ces enseignants, ces professeurs, ces sages voulaient que chaque classe d'âge se sente non seulement solidaire, mais responsable.
Est-ce que dans la partie mathématique, on va dire, ou les épîtres classées sous le label « science mathématique », il y a quelque chose qui est central, c'est l'idée de l'importance du nombre,
ah oui,
à laquelle tout est ramené finalement. Et donc c'est pour ça que lorsque ils viennent au nombre, à l'arithmétique, mais surtout à la théorie du nombre, ils ont classé ces différentes sous-branches, y compris la géographie, dans le domaine des sciences dites mathématiques.
Oui, c'est en fait, les cinq épîtres sont consacrés, vous savez, aux mathématiques, sous les rubriques arithmétique, géométrie, astronomie. Et puis, comme vous venez de le dire, les rapports numériques, géométriques, et puis aussi musicaux. Et là, vous avez parlé d'El-Farabi tout à l'heure. Mais tous ces grands savants médiévaux étaient en même temps aussi très attentifs à la musique, puisque je crois El-Farabi a écrit.
Il était à la fois musicologue, musicien et musicothérapeute.
Et alors, musicothérapeute.
Et je ne résiste pas à dire que si cet hurluberlu de Brest connaissait ces choses-là, il n'aurait jamais dit à des jeunes enfants qui écoutaient de la musique qu'ils seraient démonisés ou transformés en porcs et en singes. Hélas, c'est pour dire où est-ce que ça peut mener l'ignorance et le manque de culture, et l'extrémisme et le culte sans la culture.
Tout à fait. Et puis alors, la musicothérapie, on l'a vu dans les bimaristans, c'est-à-dire ces hôpitaux, n'est-ce pas? Vous avez parlé de la Syrie tout à l'heure, à Damas et à Alep, il y avait ces fameux hôpitaux, n'est-ce pas, qui tenaient compte aussi des maladies mentales. Et on le sait, n'est-ce pas, les grands médecins de l'époque utilisaient la musique, notamment, pour la guérison des maladies mentales. C'est absolument fantastique. C'est pour ça que c'est repris. Et c'est ça qui montre, finalement, qu'il y avait énormément d'auteurs qui étaient un peu comme une encyclopédie moderne, venaient pour écrire la rubrique qu'ils connaissent, et ensuite, ils avaient apporté leur pierre à l'édifice, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est fantastique, parce que, pour terminer notamment sur ces épîtres consacrées aux mathématiques, il y avait notamment la logique avec la reprise d'Isagogue, entre autres, n'est-ce pas, très important, les catégories herméneutiques, analytiques, etc.
Ils reprennent effectivement les quatre causes premières, la cause formelle, la cause matérielle, la cause efficiente et la cause finale, en donnant des exemples, c'est-à-dire en explicitant tout le domaine de la logique, ce que vont reprendre plus tard les philosophes ou hellénisants, arabo-musulmans, y compris en Andalousie.
Tout à fait, voilà. Et puis alors, en ce qui concerne donc, les parties des sciences, il y avait également, donc, nous avons parlé de la psychothérapie, l'usage de la musique, mais il y a aussi la proposition de classer les différents tempéraments des patients en fonction de leur réactivité. C'est quelque chose d'extrêmement moderne, n'est-ce pas? Tout à l'heure, vous vous interrogiez sur ce qu'il faudrait conserver, mais il y a, je crois d'ailleurs, que actuellement, on est en train de rééditer, n'est-ce pas, les...
Oui, parce que l'engouement a repris au XIXe siècle pour toutes ces épîtres, et après, il y a un travail, et maintenant qui est en train d'être mené, pour avoir une édition critique sur ces différentes épîtres, et voir les différents emprunts. Parce que quand on voit ces encyclopédistes, comment ils consignent par écrit finalement le fruit de leurs observations, voire de leur expérimentation.
Tout à fait. Il y a 8 épîtres consacrées aux sciences, sur la matière, la forme, le mouvement, l'espace, le temps, les sens, le sensible, le ciel, le monde, la météorologie, les substances minérales, les végétaux, les animaux, les genres et les espèces. C'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui réapparaîtra aussi dans les fables qu'aimeront les Bagdadis. C'est notamment l'utilisation d'animaux qui participent à la société, la société des singes, par exemple.
Alors, on dit que Ibn al-Muqaffa,
oui, tout à fait,
auteur de Kalila ou Adimna.
Kalila ou Adimna, absolument.
Dont on dit que Jean de La Fontaine se serait inspiré.
Oui.
Et aurait été l'un des tout premiers membres de cette confrérie des frères de la pureté. Est-ce qu'on est dans les temps ou pas? Est-ce que ça, il y a une réalité de cela? Mais on le dit souvent.
Ibn al-Muqaffa ou ceux qui l'ont imité par la suite? Parce que Ibn al-Muqaffa, comme vous le savez, était d'origine mazdéenne. Et là, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est Ikhwan al-Safa, ces adeptes, finalement, de la connaissance, rassemblaient tout ce qui était épars. C'est-à-dire, ils n'avaient aucune idée, aucun préjugé, aucune idée préconçue. Et ça, c'est quelque chose, c'est un enseignement pour nous tous.
Oui, et leur ouverture aux travaux d'un Thabit ibn Qurra, le Thabit des latins,
oui,
qui lui était sabéen et se serait islamisé peut-être à la fin de sa vie, montre que l'altérité confessionnelle n'était pas un problème pour eux, au contraire, c'était même une chance, une opportunité. Et vous l'avez évoqué au début de l'émission, leur ouverture, par exemple, sur la Torah ou sur l'Évangile, pour puiser la sagesse qu'ils recèlent l'une et l'autre, et était aussi leur marque de production. Est-ce que vous pouvez encore citer quelques disciplines couvertes par ces épîtres, ou on en a fait le tour?
Écoutez, il y a encore toutes les sciences rationnelles.
Les sciences rationnelles.
Voilà. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, en ce qui concerne les sciences rationnelles, la logique, notamment, en plus, c'est-à-dire que c'est ça qui est extraordinaire et qui est une bonne leçon pour nous. C'est le fait de mettre en valeur la raison et la foi. Parce que je crois que il y a toujours une difficulté parmi ceux qui s'intéressent aux religions de concilier les deux. Et je crois que ces épîtres, finalement, essaient de faire un tout qui permette un peu ce qu'ont fait tous nos humanistes, que ce soit Ibn Rushd, Averroès, Ibn Sina, Avicenne, n'est-ce pas? Vous avez cité El-Farabi, etc. C'est-à-dire, c'est la conciliation de la foi et de la raison. ne pas uniquement être dominé par la raison et ne pas uniquement être dominé par ce qu'on croit être le message religieux.
Oui. Et je ne résiste pas, dès lors que vous avez évoqué Averroès, donnant les dates toujours pour nos amis auditeurs, 1126 Cordoue, c'est son lieu de naissance, 1198 Marrakech, bien qu'il fût inhumé par la suite 3 mois plus tard à Cordoue, il disait dans son traité décisif, s'il devait avoir une quelconque contradiction entre les données révélées dans leur sens obvi et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie, parce que la vérité ne contredit pas à la vérité, mais l'accompagne et témoigne pour elle. C'était à la fois d'une grande audace intellectuelle, inimaginable de nos jours, mais aussi une bonne vision de cette unité à la fois du savoir et de l'intellect humain.
Tout à fait.
Et en parlant de l'intellect humain, eux aussi, je reviens à nos amis, les frères de la pureté, nous avons une sympathie pour eux.
Hein, oui, tout à fait.
Eh bien, les frères de la pureté disaient que d'abord il y a une création ex nihilo, ils parlent en tant que croyants, ce sont des croyants musulmans, il y a une création ex nihilo de l'intellect. Et c'est l'émanation, l'effusion de cet intellect qui finalement va donner lieu à une sorte d'âme cosmique. Et après, décrescendo, on va avoir la création par la suite, y compris, passant par l'homme bien entendu, y compris de ce qui relève du règne animal, végétal et minéral.
Tout à fait. Et là, vous avez repris, en ce qui concerne notamment Ibn Rushd, mais...
L'Averroès des Latins.
L'Averroès des Latins. Mais l'Averroès des Latins a une influence extraordinaire sur la philosophie médiévale européenne, occidentale. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les frères de la pureté étaient, vous le savez bien, très populaires en Andalousie. Et là, il y a un continuum qui est... Si l'on cite les personnalités qui ont été influencées par les frères de la pureté, on a en Syrie Aboul Ala al-Mahri, n'est-ce pas? C'est fantastique. On retrouve chez lui aussi cet appel à la raison. On a cité tout à l'heure Ibn Sina, mais on a des personnes comme Nasser Khosrow, par exemple.
Oui, oui. Ceux qui ont subi heureusement leur influence. C'est effectivement Mahri. Mahri, c'est
973-1057. Oui, il est mort en 1057, voilà, c'est ça. Oui.
Otage de deux prisons, la cécité, et puis il ne sortait plus de chez lui. C'est comme ça qu'il se définissait.
Tout à fait.
D'une manière anecdotique, Miguel Yassine y Palacios, on est déjà en 1919, va provoquer un tollé général en soutenant une thèse de doctorat dans laquelle il... dit que la Divine Comédie de Dante est un pastiche de l'Épître au pardon de Mahri.
De l'Épître au pardon de Mahri, oui.
Parce qu'on trouve la même configuration, la même architecture.
Tout à fait.
Ce qui joue le rôle de Béatrice, c'était tout simplement l'ange Gabriel.
Tout à fait. Et je crois, voyez-vous, si vous vous interrogez avec nos auditeurs sur l'influence des frères de la pureté, eh bien, elle est là. Elle passe par El Mahri et elle va déboucher sur tout le côté révolutionnaire dans le sens philosophique à partir du XIIIe, XIVe siècle en Occident. Mais si l'on continue ceux qui ont été influencés et que nos auditeurs connaissent bien, Ibn Arabi, c'est surtout pour l'aspect eschatologique du Mi'raj, c'est-à-dire de la montée au ciel du prophète comme école pour l'initiation au soufisme.
Oui, il y a la chevauchée nocturne et l'ascension céleste. D'aucuns pensent que c'est un voyage incorporé. Alors, en réalité, c'est un songe mystique qui donne lieu à cette école, à cette propédeutique.
À cette propédeutique, voilà.
D'initiation. L'influence des frères de la pureté, elle était notable et réelle en Occident, et notamment l'Occident islamique, mais il y avait aussi une influence du côté de l'Inde. Vous avez cité les deux Nasser al-Din Khosrow et al-Tusi.
Et Tusi, bien sûr.
Bien entendu. Et il y a à Bombay, à Calcutta, même à une période encore plus proche de nous, ces 52 épîtres qui étaient étudiées, disséquées, et la base d'une approche scolaire et éducative des jeunes musulmans ou hindous, en tout cas des Indiens.
Je crois que ce que vous dites, c'est parce que l'encyclopédie des Frères de la Pureté, c'est quelque chose qui peut être lu finalement par des non-musulmans. Enfin, je veux dire, c'est par l'honnête homme. Mais en plus, à l'Occident, encore Ibn Khaldoun. Regardez si Ibn Khaldoun a été influencé notamment par les quatre cycles historiques dont parlaient effectivement Ikhwan es-Safa, les Frères de la Pureté. Il y avait un cycle historique, ça c'est dans le texte des épîtres, que d'une manière générale, le cycle historique des religions, des dynasties, doit durer à peu près 1000 ans, mais celui du transfert de royauté d'une nation à l'autre, c'est 240 ans, mais le changement du souverain, c'est 20 ans, et les événements annuels, fertilité, sécheresse, épidémie, c'est annuel. Tout cela a été repris par Ibn Khaldoun, qui montre justement la montée d'une dynastie, son affermissement, et puis sa faiblesse et sa chute. Ça, je crois que, d'ailleurs, Ibn Khaldoun évoque, ce sont des conjonctions qui sont dans le texte même des Ikhwan, les conjonctions de Jupiter et de Saturne, et il explique la théorie des cycles ismaéliens. Quand les circonstances, dit-il, ont changé, c'est comme si la création avait changé, comme si c'était une nouvelle création, une naissance recommencée et un nouveau monde produit. C'est incroyable parce que Ibn Khaldoun, on l'a présenté quand même comme le fondateur de la sociologie moderne. Donc,
alors qu'il est né en 1334, mort en 1406.
Oui.
Sur France Culture, avec le professeur Christian Lauchamp, chargé de cours à l'Université Paris 2, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, lecteur aux universités à Inchams et à Al-Azhar au Caire, mais aussi attaché culturel et de coopération technique à l'ambassade de France, aussi bien à Bagdad, à Khartoum qu'à Damas. Christian Lauchamp, qu'est-ce que vous vouliez dire à propos de cette approche cyclique ou cette vision cyclique de la vie des hommes, que ce soit au niveau de leur quotidienneté, qu'au niveau du changement de souverain ou de responsable politique, au niveau des civilisations, voire des traditions religieuses?
C'est-à-dire, c'est pour responsabiliser l'homme. Exactement comme à plusieurs reprises dans le Coran, il y a quand même des versets qui responsabilisent l'homme. Je pense qu'on ne fait pas suffisamment attention à cela, mais regardez, de grands islamologues ont rappelé notamment le rôle de l'écologie dans le Coran. C'est incroyable, c'est-à-dire on n'a pas l'habitude de voir un texte sacré de cette manière-là, comme un texte d'enseignement. C'est un texte, finalement, qui montre combien les frères de la pureté se sont inspirés de ce texte au départ, l'ont explicité et ont montré combien le projet de l'homme pouvait suivre le projet de Dieu à condition que l'homme, effectivement, passe par toutes ces phases que vous venez de citer. Oui.
Là, c'était l'influence réelle et directe sur Ibn Khaldoun. Est-ce que vous avez des idées sur d'autres influences et peut-être pas nécessairement en milieu islamique?
Il y a toute cette... Je l'ai vécu, puisque comme j'ai vécu en Syrie, vous savez, j'ai rencontré beaucoup d'Ismaéliens. Les Ismaéliens ont quand même fait une... Ils ont un peu une récupération du texte, n'est-ce pas? C'est-à-dire, pour eux, et pour des commentateurs d'ailleurs occidentaux de ces textes, les Ismaéliens, il faut penser à l'université, par exemple, de l'Aga Khan, notamment à Karachi, mais aussi à Londres, où il y a le professeur... El-Filali Ansari, n'est-ce pas,
Abou Filali
Ansari, qui est notamment le directeur de Mahad el-Ali les Dirasat el-Islamiyah, c'est-à-dire donc le directeur des hautes études islamiques.
De l'Institut supérieur.
De l'Institut supérieur. Cette université ismaélienne qui va dans le droit fil de Ikhwan es-Safa, des frères de la pureté, en fait, il y a de nombreux penseurs comme Abou Filali Ansari qui montrent combien ce texte était moderne et combien il pourrait y avoir, précisément dans la relecture aujourd'hui du Coran, la source d'inspiration d'un néo-ijtihad, si je puis dire. Ce sont des penseurs qui sont quand même des penseurs qui sont musulmans et défendent l'islam dans toute son entité, mais en même temps, en sollicitant le texte grâce à ces textes, peuvent revenir notamment sur les consignes qui sont données finalement dans le Coran pour la tolérance, pour l'ouverture, pour la recherche de la science.
Oui, vous avez parlé d'un néo-ijtihad. Ijtihad, c'est un mot de la même racine que djihad. Ici, c'est dans son acception effort intellectuel, cérébral, mental, un
exactement.
Effort de recherche.
Que l'on peut traduire maintenant par exégèse.
Par une exégèse.
Une exégèse moderne, voilà. Je pense, celui qui a beaucoup travaillé sur l'écologie dans le Coran, c'est-à-dire sur les consignes qui sont données dans le Coran, notamment pour protéger la nature, c'est Mohamed Al-Koun.
Entre autres, oui,
entre
bien
autres,
entendu.
Entre autres, n'est-ce pas,
c'est, là, et Mohamed Taleb aussi.
Et Mohamed Taleb. J'ai posé la question à des professeurs de philosophie de pays différents, par exemple l'Égypte. En Égypte, les Ikhwan es-Safa ne sont pas enseignés dans le programme de philo, mais au Liban, en Syrie, oui. C'est-à-dire que dans la dernière classe du secondaire, j'ai été frappé de ça, que les professeurs de philosophie enseignent Ikhwan es-Safa, donc les frères de la pureté, comme dans l'enseignement philosophique.
D'autant plus qu'il y a une veine, une facture néoplatonicienne qui transparaît dans toute leur œuvre, et ceci peut-être explique, ceci étant le manque ou l'absence d'enseignement dans le programme de philosophie en Égypte de la production des frères de la pureté. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien de cause à effet, mais peut-être que la régression tragique que connaît l'Égypte maintenant est peut-être due au fait aussi de ne pas s'ouvrir sur la production intellectuelle et philosophique déjà des auteurs musulmans.
Tout à fait.
Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, Christian Lochamp, pour finir cette émission. Quel est finalement le message dont vous percevez aussi bien dans les épîtres des frères de la pureté que de leur démarche, que cette volonté de rester tout de même anonyme? Est-ce une démarche d'humilité? Est-ce une démarche plutôt de discrétion? ou pour d'autres raisons dont vous nous avez dit quelques idées au début, maintenant, alors que c'est une histoire qui remonte déjà au 9e, 10e siècle.
C'est-à-dire, d'abord, ça serait uniquement du point de vue historique. L'histoire de la science, par exemple, pourrait s'appuyer sur cette encyclopédie. C'est-à-dire, finalement, cette encyclopédie, c'est réellement un état des connaissances dans des siècles que parfois les Orientaux, mais aussi les Occidentaux, ne reconnaissent pas comme étant de valeur scientifique. C'est-à-dire, il y a quand même, vous le savez, il y a eu récemment, en France aussi, mais dans d'autres pays, des contestations du fait que les Arabes, à un certain moment, n'auraient été que des passeurs. Ils n'auraient pas été des initiateurs et des producteurs. Des producteurs, voilà. Or, cette encyclopédie, elle montre au contraire que, en se basant, vous l'avez rappelé, en ce qui concerne les Mazdéens notamment, en se basant sur les connaissances que l'époque avait des Mazdéens, il y a les Sabéens aussi qui sont étudiés, de façon les Sabéens qui apparaissent dans le Coran aussi, mais qui sont très bien étudiés aussi, les chrétiens, avec leurs différentes composantes, et bien sûr le Coran.
Et les Juifs aussi.
Et puis les Juifs également. C'est-à-dire que il y a les Juifs en ce qui concerne notamment la connaissance de la Bible. Il y a la connaissance du Nouveau Testament et puis la connaissance de la Bible. Puisque Abraham, Moïse sont cités largement et que c'est extrêmement intéressant de voir que on a là du point de vue historique, simplement une description des connaissances de l'époque, mais en plus, c'est une incitation pour nous au XXIe siècle, alors que malheureusement, très souvent, il y a un combat interreligieux absolument épouvantable dans un grand nombre de pays. C'est un appel à la tolérance, un appel à ce que nous ne faisons plus, c'est-à-dire, il y a quand même quelque chose que l'on peut dire, et je m'excuse de le dire, beaucoup de musulmans ne connaissent pas le christianisme comme les frères de la pureté le connaissaient, et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas non plus l'islam.
Oui. Mon cher Christian Lauchon, vous n'avez pas à vous excuser de dire des choses comme ça. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler effectivement de l'œuvre de ces frères de la pureté, une œuvre salutaire et d'une grande valeur relevant de la connaissance dans cette encyclopédie. Nous arrivons, hélas, au terme de notre émission ensemble. C'était Question d'Islam sur France Culture. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques et les musiques sur